on a commencé à le connaître parce qu'il est organiste. Mais les grandes orgues, hein, on ne fait pas dans le petit. Alors là, désolé, on n'a pas d'orgue ici. Le seul qu'on a dans notre secteur, il est en morceaux. Il y a des morceaux dans les tuyaux. Et à Gomez-la-Ville, oui, il y a un tout petit orgue marron comme tout.
Ça des fois, les plus petits sont les plus drôles.
Bon, ça s'appelle un orgue. Voilà. Après cela, il s'est marié.
Tard.
Oui,
à 39 ans.
39 ans, oui. Et puis, il s'est un peu commis dans les... Comment on appelle ça? Les études de notaire.
Oui.
Voilà. Parce oui, que j'étais... sa femme est une notaire.
J'étais 27 ans clerc de notaire, principal à Paris, s'il vous plaît, boulevard Saint-Germain.
Et, puis,
et la crise de 2008 a eu raison de mon état. Et il a fallu que je me réinvente et c'était tout vu parce que j'avais entamé au début de mes études un parcours vers la santé, vers la médecine. J'ai foiré le concours de médecine. Merci Madame Veil. Et donc j'étais parti vers le droit un peu comme on part la fleur au fusil. Donc, j'ai appris qu'on était sous la 5e République. Ah bon? Alors je note, 5e République. Voilà, je ne savais rien de tout ça. Bon, j'ai progressé comme ça. Puis après, avec la crise, je me suis rétabli en me disant, mais après tout, j'ai pas voulu être infirmier parce que j'avais peur d'être aigri, d'être à côté de médecins tout au long de ma carrière. Là, ma carrière elle est plutôt derrière moi, donc. Voyons un peu quand même le métier d'infirmier. Et puis j'ai passé le concours, j'ai été reçu, j'ai fait 3 ans d'études comme tout le monde, très difficile parce que sur le plan des écrits, tout ça, ça allait très bien. Mais alors les stages avec les personnels qui me voyaient arriver avec les cheveux rizés, mais c'est qui ce gars? Voilà, je représentais pas l'étudiant type, quoi.
Bon, il y a combien d'infirmières ici?
Voilà, merci, mesdames.
Bah, combien d'infirmiers? Voilà. Bon, alors je continue avec son CV, donc voilà. Marié, etc. Et puis, il s'est senti appelé pour le diaconat. Bien sûr.
Ouais, ouais. Je ne me suis pas branché tout seul sur la prise.
Non. On est venu me chercher.
On est venu me chercher. À cause de l'orgue, à cause de plein de choses. Et puis, quand on suit ce chemin... Faut me dire hein, si je suis pas assez
c'est bon.
En face du micro.
C'était mieux. Hein.
C'était mieux, il me semble. J'avais.
Donc, je continue avec son CV. Donc, il a été ordonné diacre.
Voilà.
Il m'a dit que ça ferait 10 ans cette année. Et il habite à Savigny.
Savigny-sur-Orge.
Voilà. Et donc, il est infirmier. Alors, je ne sais plus si c'était au moment de la formation que tu es devenu ou ben, après.
Tout a démarré en même temps. Le chemin de discernement vers le diaconat et l'école d'infirmiers, tout a démarré en même temps. Alors d'un côté, on disait qu'il va falloir être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis de l'autre côté, on disait qu'il faudra être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Et ça va être quoi la synthèse entre les deux? Ben, ça se vit, quoi. Il faut y aller, quoi.
Bon, alors il a une qualité qui est aussi un défaut. Il est verbomoteur. Donc il faudra de temps en temps le débrancher.
Oui. C'est la condition si vous voulez rentrer chez vous à mon fourriaste.
Bon, on va te laisser la parole, mais tu nous laisseras un peu de temps aussi pour qu'on te pose des questions.
Il faut que je sache ce que vous attendez aussi que je dise.
Comme tu es un spécialiste des soins palliatifs, depuis maintenant combien?
Ça fait 11 ans que je suis diplômé infirmier. Voilà. Et ça fait 10 ans que je suis toujours dans le même service, à Jeanne Garnier, en 15e, où j'y suis vraiment heureux, je veux dire, vraiment, vraiment. Ce n'est pas une vue comme ça, une pirouette intellectuelle, c'est vraiment, j'y suis bien. Là, j'arrive à 65 ans et tout le monde me disait, bon, bah alors la retraite, c'est comment? Et j'ai commencé à y réfléchir un peu, puis arrivé au moment où il fallait que je dépose le dossier, je me suis dit, oh, puis non, je ne vais quand même pas arrêter ce métier que j'aime tant. Parce que j'ai simplement 65 ans. Quoi. Tant que je ne sucrerai pas trop les fraises, je continuerai mon service. Bon, ça n'a pas gêné beaucoup la direction d'apprendre ça. Ce sont des bonbons, on laisse faire. Ils sauront me dire si ça va plus, si là-haut ça déraille. Ils sauront me dire qu'il faut changer de voie. Mais enfin, non, ça, vraiment, c'est un métier où on se...
Voilà. Alors, ce qu'on attend de lui, bon, moi, c'est ce que j'ai compris. On a une actualité pressante.
Oui. N'hésitez pas à parler, à me poser des questions. Moi, je peux dire plein de choses, mais voilà. Peut-être ça ne correspond pas à ce que vous attendez de savoir.
Sur la fin de vie. Vous attendez à ça. Nos évêques se sont un peu prononcés sur ce sujet, on va le dire. Et on s'est dit que ça serait important qu'on prenne un temps pour mieux comprendre que la fin de vie, c'est pas la mort, mais c'est toujours la vie. Comment vivre cette fin de vie d'une façon vivante, sereine. Et on s'est dit, en appelant quelqu'un qui côtoie cela tous les jours, on aura peut-être un éclairage intéressant, qui nous permettra aussi de nous déterminer. Et surtout, je dirais, d'être auprès, justement, des personnes qui sont en fin de vie. Hein, on a toujours un peu de mal à savoir comment se comporter. Bon, moi, j'accompagne une personne qui est née en 1918.
C'est bien, ça.
Oui, c'est bien. Elle me dit qu'une chose, je souhaite mourir. Voilà, donc, alors, la vie là-dedans, c'est pas facile. Voilà, donc il y a des gens qui souhaitent mourir, mais elle va bien.
La difficulté à Jeanne Garnier, c'est que les gens sont quand même inscrits dans une temporalité bien déterminée, c'est que c'est court. Ils sont là, on va dire que la sécurité sociale nous impose de faire un bilan au bout d'un mois. S'ils sont là encore au bout d'un mois, c'est que peut-être leur place n'est pas au milieu d'une unité de soins palliatifs.
Alors, on te donne une petite heure pour que nous présente les choses. Puis après, je vous proposerai de...
Non, mais même d'emblée, on peut commencer à être en...
Sentez-vous à l'aise.
Oui, il faut en toute simplicité.
Je te laisse la parole.
Moi, j'ai été interpellé, c'était en 81, quand François Mitterrand a été élu président. Dans la même période, on a lu dans, je ne sais plus, je crois que c'était Le Monde, mais je suis absolument sûr de l'avoir lu quelque part, parce que cet article a disparu. Un article de Jacques Attali, enfin, il répondait à un journaliste et, sur la fin de vie. Et Jacques Attali disait, il va falloir se résoudre à accepter l'idée que passé 65 ans, si on coûte plus cher que ce qu'on rapporte à la société, il faudra se résoudre à passer par une machine à tuer. Il l'a écrit, ça c'est absolument sûr. Et après, donc malicieusement, le journaliste lui pose la question, mais est-ce que vous avez déjà vu un mort? Non, même pas. Donc, c'est un type qui donnait des avis sur la vie, la mort, sans avoir même vu un mort. Alors je ne dis pas que quand on a vu un mort, on sait ce que c'est que la mort, mais... Ça inspire un peu de modestie quand même, ça nous impose un petit peu de vivre les choses avec humilité, quand même, il me semble. Et après, il a nié l'avoir dit, et il disait, finalement, ça donne du boulot aux infirmières, aux aides-soignantes, il ne faut quand même pas abandonner le truc, les soins palliatifs. Puis après, il y a eu, Donc ça m'a profondément révolté. En amont, j'avais eu l'expérience malheureuse, à mon sens, de voir mes deux grands-parents maternels partir sur chacun leur piqûre, dans des conditions éthiquement inacceptables. Alors, je n'accuse pas mes parents de quoi que ce soit. Moi, ce que je considère, c'est l'action du corps médical qui a été complètement défaillante. Moi, je me rappelle quand j'ai présenté mes épreuves au concours de médecine, j'attendais le sujet, j'étais comme ça sur la table d'examen et sur la table, pour composer la première épreuve. Et je pensais à ce qui s'était fait avec ma grand-mère. Et je me rappelle avoir poussé la feuille un peu comme ça sur le devant du bureau en me disant, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Voilà. Alors peut-être que j'ai foiré mon concours un peu sur cette idée-là, c'était pas la peine, voilà. Et finalement, quand je vois mon parcours, je crois que je suis mieux là où je suis que si j'avais été médecin. Je suis vraiment au chevet des patients, à côté d'eux, avec eux. Je sais tout d'eux, leur regard, leur voix, leurs idées, leurs espoirs, leurs projets, leurs désespoirs aussi, leurs odeurs, leur tout, quoi. Tout, tout, tout. Voilà, donc je suis bien avec eux, Et je pense que le rapport de confiance, il s'établit dès le premier jour, dès le premier instant. Voilà, moi je travaille, paramètre important, je ne travaille que la nuit. Je suis infirmier de nuit, parce que ça me laisse du temps pour être avec les patients, justement. C'est pas le tourbillon des soins, des trucs, des visites, des visites de médecins, des visites de famille, de techniciens. Je suis vraiment tout seul dans mon service avec mon aide-soignante et le médecin de garde de temps en temps. Et je suis en autonomie avec ces patients. Et on est vraiment... C'est une vraie fraternité, là, pour le coup, je peux vous dire. C'est vraiment très, très puissant, très fort. Et c'est pas mon seul ressenti. Enfin, je veux dire, je sais, par des témoignages, des recoupements, tout ça, enfin, des choses que j'entends, les gens sont ravis de me voir quand je suis de service, quoi. Ça va bien. Les autres aussi, hein, bien sûr, mais voilà, moi, je suis sûr de mon positionnement. Pas par vanité ni rien que je dis ça, c'est que je pense être à peu près à la juste hauteur, c'est-à-dire bas, le très bas, comme disait Bobin, la Christian Bobin, le très bas. C'est-à-dire au niveau du regard du patient, c'est-à-dire que s'il est dans son lit, eh bien, je m'assieds, je me mets à côté de lui, je lui parle, je prends le temps, voilà. Et ça génère de la confiance, ça génère de l'interface, de l'interaction, de la confiance. Voilà. Avec un vrai plaisir tous les soirs d'aller au boulot en me disant bah, je vais faire du bien aux gens. C'est vraiment extrêmement valorisant. C'est vraiment très valorisant. Alors, c'est sûr, il y a des choses. On se dit pour moi, bof, je n'ai pas trop envie. Et ça, c'est aussi pour les infirmiers, infirmières qui sont là, et quand ils ont appris leur processus obstructif, cancéreux, je ne sais pas, toutes les maladies qu'on doit travailler avant d'avoir son diplôme, on dit, bah, y en a bien une là-dedans qui va nous concerner. Ça, on se le dit tous, mais on n'en a pas envie, parce que ça nous renvoie à notre propre finitude. Mais n'empêche que, voilà, on sait qu'on va pouvoir apporter réellement du confort à toutes ces personnes qui sont avec nous. On sait lutter très 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 bien contre la douleur physique. Moi je distingue vraiment la douleur physique et la douleur psychique, la souffrance psychique. Tant qu'on n'a pas cette dichotomie dans la tête, ça ne se passe pas bien, parce que on va employer des mots, on va employer le mot souffrance de façon complètement désordonnée, comme disait Lao Tzu. Ce qu'on ne conçoit et qu'on ne dit pas bien, ça ne se passe pas bien. La douleur physique, on la soigne très bien. La douleur psychique, la souffrance, donc la souffrance, on va l'appeler comme ça, psychique, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut que le patient soit compliant, il faut qu'il accepte. Et c'est très curieux. Alors il y a une barrière encéphalique qui empêche les produits d'agir rapidement, mais il y a aussi une barrière psychologique qui fait qu'il y a une sorte de résistance. On peut vous aider, monsieur ou madame, à soulager votre anxiété, votre angoisse. Ah non, ça va très bien. Mais alors, tout ce qu'il aura fait et dit avant, on voit très bien que le critère de l'anxiété et de l'angoisse, il est là. Hein. Et puis plus. Et c'est normal. C'est le début de la nuit, souvent, où ça s'exprime le plus. C'est un peu comme les enfants, vous savez, quand les bébés là, qui se mettent à pleurer en début de nuit, bah, c'est exactement, enfin, je ne veux pas infantiliser le patient, mais c'est le même phénomène. En début de nuit, là, ça flambe, il y a la nuit qui tombe, qui arrive, il va falloir faire la nuit, les gens ont peur de s'endormir parce qu'ils ont peur de ne pas se réveiller, ça fait de l'anxiété, ça c'est énorme. Donc il faut savoir avoir une écoute suffisamment performante pour leur faire dire, c'est pas à nous de dire à la place de ces gens-là, ce qu'ils éprouvent. Là, j'ai une dame là, qui est décédée la semaine dernière, samedi dernier. Elle prenait des doses et des doses d'antalgiques puissants, hein, des trucs bien bien frappés, le troisième palier 3, bien, bien, bien sérieux. Jusqu'au moment où je lui dis, mais tout ce que vous me dites là, c'est... Pour moi, c'est vraiment l'expression de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, j'ai bien vu que c'était une sorte de saut dans le vide. Elle a fini par dire, bah oui. Et je lui dis, donnez-moi la possibilité de vous donner ne serait-ce qu'un comprimé de bromazépam. Vous voyez, un petit comprimé de rien du tout. C'est la base de notre propos anxiolytique. Voilà. et antidépresseur, et elle accepte, et après elle ne tarissait pas d'éloges à mon égard en disant voilà, il m'a sauvé de la grande misère, parce que on a réduit de plus de la moitié la prise de traitement antalgique. C'est pas moi qui ai fait le miracle, hein, c'est que sa situation a pu être prise réellement mieux en charge. Et ça, c'est le grand problème, c'est le côté psychologique, c'est très très compliqué. Et on est tous pareils, hein, moi je ne me mets pas au-dessus du haut, on est tous pareils. On est tous confrontés à cette même difficulté d'accepter, de dire qu'on est anxieux. Alors je dois le dire, j'ai été vraiment éduqué, dressé par mon cher paternel, qui était un anxieux, mais j'ai jamais vu ça, Jeanne Garnier. Jamais, 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 j'ai vu quelqu'un d'aussi anxieux que lui. Donc ça m'a donné une sorte de compétence, quoi. Il a fallu que je fasse avec. C'est utile, hein, les expériences sont quand même utiles de temps en temps, heureusement. Celle-là a été utile. Et je suis fier, j'ai réussi à l'emmener in extremis hein, à Jeanne Garnier pour mourir. Mais mon Dieu, un degré d'angoisse à ce niveau-là, c'était vraiment extraordinairement puissant. Eh bien, il est mort en souriant, en me remerciant, paisiblement, consciemment, il était conscient. Vraiment, je ne peux pas mieux dire. Voilà, je parle de mon père, avec ce qu'il était, avec ses angoisses et ses trucs qui flambaient de façon incroyable. Et au bout de 30 coups de téléphone pour avoir une ambulance pour l'emmener un vendredi soir, ah, il n'y a plus de micro, j'ai l'impression. Ça, ce que je dis fait fondre les plombs, c'est ça. Il faut le débrancher, déjà.
C'est bon, là.
Ça devrait aller mieux, là. Ouais. Oui, c'est bon. Ah, là, ce coup-ci, c'est bon. C'est pour dire qu'on arrive à bien faire les choses. Là, je suis honnête, je vous dis les choses. On sait faire les choses pour peu que les gens acceptent un petit peu de nous faire confiance. Et ces gens qui... Alors, voilà, je sais que dans l'Assemblée, forcément, il y a des gens qui sont favorables à tout ce qui se vote en ce moment. Ça doit arriver. Statistiquement, ça arrive. On me dit qu'il y a 82% des Français qui sont d'accord. Donc j'en prends 10, j'en prends 8, et voilà, j'ai mon compte. Je ne les critique pas, je ne les juge pas, je les... Voilà. Mais moi, je vois ce qu'on fait. Je vois la qualité des soins qu'on peut avoir. Alors après, ça pose la question de savoir, est-ce que la société veut le faire ? Parce que dans le soin palliatif, il y a quand même un peu plus de personnel pour assumer les soins que dans les services hospitaliers classiques. Moi, j'ai 13 patients sous ma responsabilité. Je ne dis pas en charge, hein, parce que charge, c'est mal, ça s'entend mal, quoi. Sous ma responsabilité, j'ai vraiment la responsabilité de les soulager. Je leur fais du catéchisme quand ils arrivent. Je leur dis, par pitié... Appelez-moi si vous avez une difficulté quelconque. Je ne suis pas là pour roupiller la nuit, je suis là pour vous aider. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec... mais ils ont été bien dressés, hein, qui disent bah, « j'ai pas osé vous déranger » et qui ne sonnent pas. Et voilà, après, la douleur monte, et puis ça devient insupportable. Et puis après, vous prenez un saint, vous lui faites souffrir pendant allez, 2 jours, et il va apostasier, il va réclamer la mort, bien sûr. Mais il ne faut pas l'empêcher de demander le soulagement. Vous voyez ? Il faut être disponible pour le délivrer, ce soulagement. Donc, dans le service où j'ai la chance de travailler, c'est vraiment une chance pour moi, on est dans cette discipline-là, vraiment. Vous avez des nausées, eh ben on règle le problème nausée. Vous avez une dyspnée, on règle le problème dyspnée. Des douleurs liées au cancer qui vous tapent sur les os, on a ce qu'il faut. Alors, le grand paradoxe aussi, même sur les douleurs physiques, il y a des gens qui préfèrent souffrir parce que pour eux, c'est la preuve qu'ils sont vivants. Alors ça, c'est pour nous, c'est le grand paradoxe qui nous dérange énormément parce qu'on ne peut rien faire. Moi, je me rappelle, je regardais une patiente là, le plus discrètement possible. Je m'approche dans la pénombre de la chambre pour voir si elle respirait déjà. Puis je la vois qui ouvre un œil, là, qui me fait « Mais je suis encore là, vous inquiétez pas ». Je dis, mais moi, je vois que vous êtes en train de souffrir là, ça va pas, je peux vous aider. Non, non, faites rien, c'est ma souffrance et j'en fais ce que je veux. Et c'est déconcertant à souhait, quoi. Mais ça arrive, heureusement pas trop souvent, mais ça arrive quand même assez, de façon régulière. Il faut faire avec tout ça, il faut faire avec les cultures, la culture de chaque patient, sa religion. C'est un service qui, enfin, un établissement, certes, la structure est voulue par l'Église, hein, c'est... excusez-moi. C'est mon salaire est versé par l'association des Dames du Calvaire, ça dit tout, quoi. Hein? Enfin, je crois que ça dit pas mal de choses. Bon, alors on a un peu de difficulté à exister en tant que chrétien, catholique, parce que maintenant, avec ce qui vient, c'est pas trop bien vu. Et en tout cas, ça doit pas être mis en avant pour pas faire ce qu'ils ont envie qu'on fasse. Non, moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, par exemple, dans la morgue, il y avait un énorme Christ, mais nettement plus grand que celui-ci, plus grand que moi, au fond de la salle. Je disais, ben, c'est sympa, il y a un Christ à la morgue, c'est rassurant. Et bien comme ça, par hasard, un jour, oh, il a disparu, voilà. Parce qu'il y a toutes sortes de religions qui viennent, et il y a dû y avoir des gens qui sont pleins. Vous voyez, je croyais que je n'allais pas m'en servir de ce verre d'eau, ben, si, je vais l'utiliser quand même. Voilà, c'est des petits indicateurs comme ça, mais c'est sûr, il n'y a pas de prosélytisme. Hein. On ne va pas dire la morphine contre notre père. Hein. Du tout, du tout. On reçoit beaucoup de juifs, on reçoit des musulmans, on reçoit des bouddhistes, on reçoit des athées, on reçoit des partisans de l'EDMD, de l'association du droit à mourir à dignité. On reçoit les familles, elles viennent, elles passent le temps qu'elles veulent dans les chambres, et dorment avec leurs proches. Depuis le Covid, il y a eu une petite restriction quand même, il y a un peu moins de monde la nuit, mais ça, on essaye de... Moi, j'aimais beaucoup le principe des veillées mortuaires à la morgue, même pendant la nuit. Enfin, une veillée, c'est la nuit, excusez-moi, je fais un pléonasme. C'était très bien, pour toutes les cultures, aussi bien musulmanes... pas trop catho, ceci dit, pas trop. Musulmane, juive, ils se ressentent, ils s'aiment pas, hein, mais ils se ressentent tellement, c'est singulier par rapport au thème de la fin de vie, la mort et tout ça, l'approche des rituels, ils se ressentent, mais comme des frères ou comme des cousins en tout cas, qu'ils sont. Hein. Donc voilà. Et c'était très bien, il y a eu le Covid qui est passé, et puis les plans Vigipira, tout ça, ça a mis beaucoup de distance, beaucoup d'interdits, et donc ça n'est plus possible. Ce qui fait que les gens cherchent quand même à vivre dans le service même ce temps un peu de veillée, et ça, ça nous rend vraiment la tâche difficile, parce que, par exemple, quand c'est ou juif ou musulman, c'est toute la famille qui déboule, quoi. Or, moi, je suis là pour préserver la tranquillité de mes patients, pour qu'ils dorment. La nuit, c'est fait pour dormir. C'est pas pour que moi, je dorme, c'est pour qu'eux dorment, qu'ils se reposent, qu'ils puissent avoir leur journée le lendemain. Et quand il y a un décès comme ça et que toute la famille débarque, là, c'est parfois, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, je vais au travail en me réjouissant de ce que je vais pouvoir y faire. Si au bout de 10 ans... je n'étais pas sensible à la douleur des gens, je crois que je serais en situation d'échec total et il faudrait que je fasse autre chose, prendre ma retraite par exemple. Et donc non, je ne la prends pas. Et quand j'ai dit que je ne la prenais pas, les gens ont souri, quoi. Ça leur faisait plutôt plaisir. Et quand je sors du travail, ben, pareil, j'ai le cœur joyeux parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Peut-être des fois, il y a des nuits, je peux avoir fait. Vous voyez, c'est un peu fonctionnaliste, tout ça, mais voilà, on a fait 3 décès. Ça veut dire qu'on fait 3 toilettes mortuaires, on habille les gens, les toilettes, on s'occupe d'eux jusqu'au bout, y compris dans la mort. On respecte leur dignité, on ne les met pas dans un drap, on ne fait pas un nœud à chaque bout, et puis dans le casier, on les habille, on les lave, on les habille. Et ils restent avec nous le temps qu'il faut pour que les familles puissent se ressourcer un peu, respirer un peu, s'apaiser. Et on les descend au funérarium que vraiment à la toute extrême limite pour, ben, pour des raisons d'hygiène, quoi. On ne fait pas de dessin. Mais c'est... on respecte la dignité. Alors quand moi j'entends parler de revendication, mourir dans la dignité, et il y a des gens qui sont venus, il y a une période, il y avait des gens qui venaient dans le service pour voir comment on travaillait et qui nous disaient, mais vous dites tous la même chose. Vous avez été bien chapitrés, vous savez bien répondre la même chose, tous. Et j'ai encore la tête du gars devant moi qui me dit ça. Je dis, mais ça veut dire que tout le monde tire dans le même sens et on est tous convaincus des mêmes choses pour dire ce que c'est que le soin à la personne, la dignité des gens. On a tous les mêmes convictions à ce sujet. Enfin bon, voilà, je vous fais pas, hein, je parle de la dignité, prêtre, prophète et roi. Hein. Voilà. Vous pouvez lire la loi Leonetti, la première loi que je trouve très bien. Mais elle a un article qui me gêne, c'est l'article 2. C'est pas qu'il me gêne sur le fond vraiment, mais sur sa rédaction. L'article 2 dit « Il appartient au médecin de mettre toutes les mesures en œuvre pour sauvegarder la dignité des gens. » Il y a un gros bug là, parce que s'il ne fait pas ce qu'il faut, il n'y a plus de dignité. Excusez-moi, non, moi, mon patient, il est digne jusqu'au bout. Jusqu'après même, puisque je ne vais pas faire le con avec son corps, je vais l'habiller respectueusement. Et des fois, je reçois des lettres de remerciement des familles en disant « Ah, vous l'avez bien appuyé. » Moi, je les ai suivis toute la nuit, je leur ai expliqué ce qui allait se passer, parce que la peur aussi, ça fait énormément de choses. Donc, on n'a pas d'expérience de savoir comment on meurt. Pas trop, pas beaucoup. Heureusement, d'ailleurs, l'homme est fait pour la vie, l'homme et la femme. Quand je dis l'homme, j'embrasse la femme. Mais, donc, on n'a pas d'expérience. Et donc, l'infirmier que je suis, moi, je me sens vraiment responsable d'informer les gens dans la... On voit ça, il y a tels symptômes qui sont là, il n'y a pas de souffrance. Regardez, nous on regarde ça, on regarde ça, on regarde ça pour savoir si oui ou non il y a de la souffrance ou pas, ou de la douleur, pour employer les deux penchants de la problématique. Et j'explique, et j'explique, et j'explique. Et puis, il va se passer ça, la respiration, ça va faire ça, il va y avoir ça. Ou alors il va y avoir ça. Vous voyez Puis je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous parce qu'il y a tellement de diversité de situations que c'est vraiment... Moi, j'ai aucun appareil avec moi. Hein. J'ai pas de stéthoscope, j'ai pas de scope, j'ai pas de bip, 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 bip. C'est l'œil, le toucher et l'œil et puis le nez. Puis la parole. Et puis l'oreille. Tiens, bizarre, tous les sens sont concernés, quoi. Mais c'est très... Voilà, c'est la relation, c'est le... J'ai eu une difficulté une fois avec une patiente et elle m'interdisait d'allumer la chambre quand je venais la voir. Ben, j'ai travaillé en aveugle, qu'est-ce que vous voulez ? Et ben, il y avait des paramètres qui manquaient un peu à l'évaluation de la situation. Là, je lui ai dit maintenant, ben, on va se parler franc. Maintenant, moi, je veux avoir un peu de lumière quand je viens vous voir. Je veux pouvoir vous évaluer, regarder vos perfs, comment c'est, si c'est bien en place, si ça coule bien. Et pour que les produits soient bien diffusés au bon moment, sur les bonnes doses, voilà, c'est essentiel pour que les choses se passent au mieux. Voilà, donc on est vraiment dans cette approche-là, qui est comme pas, il n'y a pas de technique, hein, y a plus, c'est les gens, ils arrivent, ils se disent, mais c'est silencieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les bip-bip, et les portes qui claquent. Moi, je suis vraiment mauvais, hein, quand un collègue claque les portes, alors là, ça me fait bouger. Voilà. Donc le respect du patient, voilà, faut qu'il soit paisible. Alors c'est pas un silence de mort, c'est un silence de repos. La nuit, les gens se reposent. Voilà. Et les gens, des fois, vont dans le couloir discuter. Non, non. Respectez le silence. Dans toutes ces chambres, il y a des gens qui dorment, ou qui essayent de dormir, ou qui essayent de lutter contre leur anxiété, ou je ne sais quoi. Et nous, on a passé toute la première partie de la nuit pour les calmer, donc ne venez pas parler dans les couloirs. Il faut respecter le sommeil des gens, enfin, c'est essentiel. C'est des toutes petites mesures comme ça. C'est on ne reporte pas, je sais pas, un nurse qui est à faire parce qu'une poche de colostomie ou je sais pas quoi, elle a un peu lâché, oh bon, on verra ça demain. Non, non, on fait tout de suite pour que la personne soit tout de suite soulagée de son inconfort. Des fois, c'est l'odeur, c'est l'aspect, c'est... Voilà, on est vraiment à disposition. Ce qui fait que le lendemain, quand vous ressortez, vous êtes certes un petit peu, un petit peu fatigué. Ça fait partie du contrat. Mais joyeux d'avoir fait tout ce qu'il faut vraiment pour soulager les gens. Ça, je ne vous ai pas découragé de venir en soins palliatifs. Non, la vraie difficulté, c'est d'accepter les familles pour qu'elles acceptent d'envoyer les patients, enfin de faire en sorte que le parcours de soins fasse qu'il débouche sur une arrivée en soins palliatifs. Parce que pendant toute notre vie, on est inscrit dans une santé, une médecine, pardon, qui soigne, qui guérit, qui... Et à un moment, il faut accepter l'idée qu'on ne va pas rattraper tout et que ça va se chroniciser au mieux ou que ça va devenir vraiment critique assez rapidement. Il y a des maladies dont on sait très bien la trajectoire. Il faut l'accepter, ça. Et ça, c'est le gros travail des familles et des patients et des médecins qui sont capables de vous proposer 7, 8, 9 lignes de chimiothérapie pour voir si ça peut... Alors, vous avez une vie de merde, hein, il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, j'ai le langage franc des infirmiers. Une vie de merde, ça se comprend. Vous vomissez, vous avez des diarrhées, vous avez vos chimios là, qui vous travaillent la peau. Et puis qui ne vous donne rien, c'est la 8e, c'est la 9e. Moi, je vous le dis franchement, quand j'ai fait mon stage en hématologie, cancérologie là, à l'IGR, Gustave Roussy, là, au-dessus de Villejuif, là, en secteur fermé, c'est-à-dire que les chambres sont isolées, hein, il y a des conditions d'hygiène absolument drastiques pour pas que les gens qui sont en aplasie soient contaminés. Donc il y a des surpressions, les bactéries, tout ça, on lave les boîtes de canettes, tout est nettoyé pour pas du tout faire courir un risque. Et les gens sont au milieu de tout ça, ils sont dans des soins complètement déshumanisants, quoi. Ils ont leur chimio, ça leur travaille la peau. Et je me suis dit, moi, vivre 6 mois comme ça pour finir quand même à plat, mort, ou avoir 6 mois tranquille en soins palliatifs, d'après vous, je choisis quoi? 6 mois en soins palliatifs, ça me paraît évident.
On peut pas rester 6 mois.
Mais on peut pas rester 6 mois. Mais on peut tricher, on revient.
Oui, la durée maximale.
Non, non, l'idée, c'est qu'on a, une alternance entre la maison et le palliatif. Vraiment, on est obligé de se poser des questions sur la durée du séjour au bout d'un mois de présence. On appelle ça la fiche jaune, parce que c'est une fiche jaune techniquement, où on a des questions à se poser, oui, non, puis on compte le nombre de oui, le nombre de non, et puis il y a un score, et puis suivant la note, eh bien, oui, il faut rester, non, il ne faut pas rester. Et c'est des gens qui ont pleuré en arrivant, qui ont découvert ce que c'était que le soin palliatif, la qualité des soins qu'on y prodigue et qu'on y reçoit. Quand on leur dit, vous allez trop bien, mon cher, il va falloir sortir, ça pleure aussi. C'est comme dans les ch'tis, vous savez, on pleure quand on y va là-haut, mais on pleure quand on en parle. C'est exactement ça. Moi, j'ai un bonhomme. Alors, c'était un bon truand. Hein. Je pense qu'il a fait partie de la mafia américaine. On racontait des trucs, bon. Un peu anxieux, je pense qu'il devait se dire, mon Dieu, quand je vais arriver là-haut, ça va peut-être chauffer. Je crois que c'était ça son problème. Bon, on n'a pas eu trop de temps d'échanger sur ces problèmes métaphysiques, spirituels en tout cas. Mais quand il est parti, il faisait la gueule et il nous promettait de revenir dans 2 mois. Et je pense qu'il le fera. Je pense que son esprit, son corps va faire en sorte que ça va se déglinguer et il va revenir dans 2 mois. C'est à peu près sûr. Parce qu'il y a une sorte de droit acquis, une fois qu'on est venu une fois à Jeanne Garnier, on reprend nos patients. C'est un contrat moral, il n'y a rien qui l'écrit nulle part, mais c'est comme ça. Quand vous êtes venu une fois, vous repartez, parce que ça va, bon, vous pouvez assumer la maison avec un peu d'HAD ou l'hospitalisation à domicile, ou dans un soin de suite, rééducation, et puis voilà, ça s'abîme, et puis voilà, les gens peuvent revenir. D'ailleurs, quand les gens reviennent, Ah, c'est toi, oui. Voilà, c'est pas malheureux. Les gens sont pas malheureux. Et pourtant, ils savent bien ce qui va se passer. Et c'est un grand sujet, d'ailleurs. C'est la grande conversation. Il y a un moment, c'est le soir de vérité. Les gens disent, mais genre, je vais mourir comment ? Ben, vu la maladie, ça va être plutôt ça, mais ça va être ça, ça va être ça. Mais alors, il y a une chose que vous devez savoir. Je reprends un peu les termes de l'entretien en général. C'est le travail de séparation. C'est nous qui allons le faire, c'est pas vous. Est-ce que vous serez tellement soulagé que vous allez accéder à cette phase finale ? Ça va être extraordinairement pente douce, quoi. Même les détresses respiratoires, même voilà, les détresses. On est tellement. Alors là, je peux vous dire, on est dressé. Hein. C'est du dressage pur et dur. Hein. Un infirmier digne de ce nom doit être capable de soulager quelqu'un ipso facto, presto subito, comme dirait la place Saint-Pierre. Hein. Il faut y aller, quoi. Je veux dire, c'est pas de la médecine au rabais. Hein. C'est de la médecine d'urgence. Quand c'est urgent, il faut y aller. Vraiment. Quelqu'un qui respire pas bien, qui a de l'eau dans les poumons, que ça glougloute, il faut vite soulager ça. Et supprimer l'anxiété, supprimer la douleur, supprimer la polypnée, enfin voilà, la respiration trop rapide qui épuise, enfin tout ça, ça se gère. Et donc, voilà, les gens arrivent vraiment le bout du bout du bout du bout, ben, ils sont soulagés, comme mon père. Voilà. Donc, rassurez-vous, ça va bien se passer. Moi, je dirais ça. Hein. Et c'est pas une provocation, ça va bien se passer. Pardon ?
Je dis à Garnier.
À Garnier.
Oui.
Voilà. Il y a des très bons établissements. Là. Voilà. C'est pour ça qu'on est quand même bien arc-boutés tous là contre cette loi qui arrive là. Bah, vous avez entendu parler hier. Alors, voilà, on va parler d'un peu de prospective. Ils veulent faire des maisons d'accompagnement. Je ne sais pas ce que ça va valoir vraiment. Ça peut être très bien comme totalement bidon. Je ne sais pas. Faudra voir. Regardez, il y a bien eu les lits dédiés soins palliatifs. C'était une belle hypocrisie, ça. Parce que ça permettait aux services d'avoir des subventions en plus, mais ils n'avaient pas la technique, ils n'avaient pas la technicité, ils n'avaient pas le personnel. Donc c'était, oui, vous étiez dans un lit palliatif, mais vous n'aviez pas les soins correspondants, ou vous n'avez toujours pas plus, d'ailleurs, c'est au présent même, possiblement. Vous n'avez pas les soins qui correspondent à l'étiquette. C'est un peu, voilà. Et je sais bien comment ça se passe. Je sais bien que le cocktail lithique, il est administré encore maintenant, et que même mon beau-frère dit, mais Jean, arrête, tu sais très bien que ça se pratique, donc il n'y a plus qu'à légaliser. Je lui dis, oui, oui, bien sûr, mais c'est comme le vol, hein, ça se pratique depuis longtemps, et c'est toujours pas autorisé. Moi, je me sens pas propriétaire de la vie des gens. Je n'en dispose pas. Je dois la respecter, je dois la valoriser, faire en sorte qu'il soit vivant jusqu'au bout. J'ai un banquier qui me dit, il n'y a pas si longtemps, mais Jean, qu'est-ce que tu veux, jusqu'au bout ? Enfin, ceci dit, je dis tu, mais c'est rare qu'on se tutoie avec les patients. Il y a une sorte de la juste distance, vous voyez, qui passe par le vous. Voilà, c'est ma façon. Le tu est possible, mais vous pouvez me tutoyer, mais moi j'ai tendance à dire vous. D'ailleurs, la direction n'aime pas trop les tutoiements, ça c'est une réalité aussi. Et il me dit, mais jusqu'au bout, j'aurai des projets. Et bien sûr, jusqu'au bout, on a des projets, pour peu qu'on ne souffre pas et qu'on ait pas mal. Les gens qui arrivent complètement tannés par la douleur, par l'angoisse, et on les soulage. En deux jours, on fait les réglages, hein, on regarde, c'est assez, oui, on arrête, on ne va pas plus haut. C'est pas assez, hop, on monte un peu en qualité de médicament et puis en intensité, et on arrive au point de soulagement. Ben, une fois qu'ils en sont là, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, ils redeviennent désagréables. Mémé nous engueule parce qu'on va pas assez vite pour ouvrir la boîte de chocolat. Il y avait une jeune femme qui me disait, il faut faire quelque chose. Sous-entendu, la picouse. À ma grand-mère, elle souffre. Je lui dis, mais attendez, de quoi vous me parlez? Votre grand-mère, elle m'engueule à chaque fois que je lui donne pas assez vite son chocolat en début de mœurs. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a envie de mourir? Ah bon, elle fait ça? En fait, c'est des gens qui projettent sur eux-mêmes l'émotion. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, qu'il faut absolument pas dire que personne ne veut mourir ni rien, hein. C'est pas vrai. Mais la réalité, c'est ça, c'est que on est souvent, on meurt, mais il y a ceux qui nous regardent mourir qui influencent aussi les choses. Voilà. Alors, comme organiste, j'ai eu à accompagner sur ma paroisse une célébration d'obsèques d'une dame qu'on a suivie en pastorale de la santé, avec portage de communion, accompagnement, présence fraternelle, tout ça, tout ça, tout ça. On l'a vue vivre, on l'a vue mourir, elle ne souffrait pas, je vous promets, elle ne souffrait pas, elle avait des vrais soins palliatifs à domicile. Et bien la famille qui est venue faire ses témoignages, moi ça m'a révolté quelque part, je me suis dit mais il tue le métier quoi. Ils ont fait cinq témoignages, dire « Oh, mémé a tellement souffert. » C'est eux qui ont souffert. Oui, ils étaient peinés, ils n'ont pas su faire le tri de leurs émotions. Ils ont souffert. Et d'ailleurs, la charte des services de soins palliatifs, c'est de s'occuper des patients et des familles, des aidants, des proches. Des fois, c'est eux qui nous brassent le plus, hein. Le déni,
la colère,
la révolte, la colère, le désespoir, c'est eux. Le patient dans son lit, il est bien, il est tranquille, il va même vachement mieux quand il est tout seul dans sa chambre. Ah, vous avez vu votre mari, vous, ça se voit, hein. Ça se voit à votre tête, vous avez vu votre mari. Et oui, c'est vrai, ça arrive souvent, hein. J'ai plein d'exemples en tête, vous voyez, c'est très vivant quand je vous dis ça, c'est très incarné. Hein. C'est, ah là, Madame Truc a vu son mari, ah là là, on va passer une mauvaise soirée. Parce que le mari, le pauvre, il est fatigué, il n'en peut plus, il est inactif, il ne peut rien faire de concret, il est désolé, il ne peut rien faire d'utile pour son épouse, et voilà, il devient un peu con. Excusez-moi du mot, mais c'est, des fois c'est ça. Quoi. Donc on essaye d'accompagner, de recadrer, de recentrer. Voilà. Tout ça, c'est on est au cœur de l'humanité, quoi. L'humanité qui vit, pas qui meurt. Hein. Moi, cette nuit, j'ai eu deux décès. Voilà. J'ai travaillé la nuit qui vient de passer. Là, j'ai eu deux décès. Bah, voilà, c'était des décès. Il y avait la famille. Vous voyez, par exemple, même dans le diocèse, j'ai entendu des choses inexactes. Ah oui, mais alors il y a des maladies tellement exceptionnellement compliquées qu'il faut une exception d'euthanasie. C'est quoi les maladies? Vous savez, le syndrome d'enfermement, là, c'est là. C'est vrai que c'est pas une bénédiction d'attraper cette maladie-là. Hein. On est bien d'accord. Mais on soigne ces gens-là et on les soulage. Et ces gens-là, ces patients-là, ils ne veulent pas mourir, hein, je vous promets. Ils ne demandent pas la mort. Hein. Les familles, c'est plus ambigu. Parce que ça les fait vraiment... Ça les met en difficulté, éventuellement. Hein. Et puis, ben, ce matin, à 6h30, là, à la mauvaise heure, parce qu'il y a tout à faire en même temps, ben, il y a une dame, et c'est là, qui s'est arrêtée de vivre. Et il a fallu que je réveille le petit-fils qui était dans la chambre. Ben, vous voyez, il était là, tout surveillé, dès qu'il entendait sa VNI, la respiration, l'appareil respiratoire faire... Quand il y a des fuites d'air, ça se met à sonner. Qu'est-ce qui se passe? Mais il s'était endormi et elle est morte pendant qu'il dormait. Paisiblement. Je vous dis pas que sa vie a été fantastique pendant ce temps de dégradation, bien sûr. Et il s'est passé des choses, on a été vraiment en relation avec elle, on l'a bien suivi, on l'a bien accompagné. Et ils n'ont pas revendiqué l'exception d'euthanasie, je vous promets, non. Et je n'ai pas honte de le dire, je ne rougis pas en le disant. Voilà. Et alors, je peux comprendre que dans certains services, votre objection était pertinente. Ben, ça fait suer de voir des gens qui durent un peu trop longtemps avec des soins très lourds à accomplir. Parce que leur confort à ces patients-là, il n'est possible que s'il y a du vrai suivi, des vrais soins de confort. Et ça coûte de l'argent.